Alors je vais prendre dans l'Écriture, bien sûr, plusieurs passages, mais je prends un passage de base à la référence, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 6, pour parler de la lumière dans nos vies. C'est pourquoi, ayant ce ministère de la Nouvelle Alliance, donc selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est pourquoi, ayant ce ministère, j'ai tout de suite ajouté, de la Nouvelle Alliance. Ben, où est-ce que je trouve ce ministère de la Nouvelle Alliance? Tout simplement au chapitre 3, le verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le ministère de la nouvelle alliance, le ministère de l'esprit, comme l'apôtre Paul peut aussi, c'est toujours le même apôtre d'ailleurs, le déclarer au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, le verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La nouvelle alliance, la manifestation de l'esprit qui nous donne la vie, la loi de la vie qui est mise en nous. Et puis, ministère aussi, dit l'apôtre, dans son chapitre 3, de la justice. Ministère de la Nouvelle Alliance, ministère de l'Esprit, ministère de la justice. Les apôtres ont été mis à part pour servir le message de la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ qui nous donne la vie, qui nous enlève la condamnation qui pesait sur nous à cause du péché et que révélait la loi. Et la loi avait donc de ce fait-là un ministère de mort, de mettre en évidence notre condamnation. Et les apôtres ont été chargés d'annoncer la bonne nouvelle de la justice de Dieu accomplie en Jésus-Christ qui nous libère de toute condamnation et qui permet à l'esprit de vie de se manifester et de nous faire vivre donc à la lumière de Christ. Ce ministère, c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Le ministère rencontre toutes sortes de contradictions, mais celui qui a reçu le ministère comme provenant de la miséricorde divine qui lui a été faite selon la miséricorde qui nous a été faite, alors celui-là ne perd pas courage. Si quelqu'un voulait accomplir ce ministère par une certaine considération de sa personne, par des qualités qu'il croit avoir, eh bien, il pourrait très vite se décourager. Mais lorsque nous comprenons que miséricorde nous a été faite pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, pour recevoir ce ministère, alors nous ne perdons pas courage. Et nous nous gardons aussi de porter aucun préjudice envers la parole de Dieu. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, nous n'altérons point la parole de Dieu. Ce serait voiler la gloire de Dieu et en priver les âmes que de se tourner ou être en secret différent de ce que nous prêchons en public. Nous n'altérons pas la parole de Dieu, nous rejetons tout ce qui est honteux et qui se fait en secret, nous dit l'apôtre. Les ministres de l'Évangile pour porter la bonne nouvelle de la gloire de Dieu en Jésus-Christ se gardent de tout préjudice qu'ils pourraient apporter à la parole de Dieu. Et voilà ce que l'apôtre nous dit, c'est que, eh bien, il y a des forces à l'œuvre dans ce monde, et face à ces forces qui sont à l'œuvre dans ce monde, l'Évangile a été prêché. Les forces qui sont à l'œuvre dans ce monde, eh bien, si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est le Dieu de ce siècle et il est de toute façon le Dieu de ce siècle. Donc dans ce siècle, nous ne trouverons qu'obscurité spirituelle, faux raisonnement, religion vaine. Le Dieu de ce siècle est une puissance d'aveuglement pour les cœurs incrédules. Il les aveugle pour qu'ils ne reçoivent pas la vérité de Dieu et qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Parce que maintenant, par l'Évangile qui est prêché, l'annonce de Jésus-Christ qui est le Seigneur que nous prêchons, dit l'apôtre, eh bien, la gloire de Christ a été manifestée et est manifestée dans ce monde. L'Évangile est prêché, l'annonce de Jésus-Christ le Seigneur, Dieu fait briller la lumière dans les ténèbres du monde, dans les ténèbres de l'ignorance, dans les ténèbres de l'incompréhension spirituelle. La prédication de l'Évangile fait briller la lumière de Christ et donc la lumière de Dieu lui-même. Au commencement, c'est comme ça que les choses se sont passées à l'origine. Lorsque nous lisons le premier chapitre, les premiers versets de l'Écriture, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu a fait briller la lumière dans les ténèbres par son esprit qui était là, qui se mouvait au-dessus des eaux, eh bien, à un moment, Dieu a parlé. Et par sa parole, il a fait briller la lumière dans les ténèbres. Et c'est là l'origine de la vie. Par la lumière, nous voyons Dieu à l'œuvre dans sa création. La lumière fait le travail, en quelque sorte, avec Dieu pour donner la vie. Mais avant, Dieu a commencé à séparer. Dieu ne peut pas travailler avec la confusion. Et comme il est écrit que les ténèbres n'ont pas reçu, n'ont pas accepté la lumière, eh bien Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et ainsi, Dieu a pu continuer à travailler avec la lumière dans le jour. Et il a travaillé et il a continué à séparer, jusqu'à ce que la vie soit la lumière des hommes créée à son image. Si Dieu n'avait pas séparé la lumière d'avec les ténèbres, rien n'aurait pu être bon. Dieu travaille dans la lumière et avec la lumière. Et encore aujourd'hui, Christ nous sépare du monde des ténèbres pour nous donner la vie par sa lumière. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quiconque veut la vie, qu'il vienne à la lumière de Christ. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Plusieurs passages dans l'Évangile, Jésus dit et se déclare clairement comme étant la lumière de Dieu, que Dieu a ramenée dans le monde. Et vous connaissez bien sûr cette parole de l'apôtre Paul, il a reçu donc du Seigneur, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » La puissance de Satan, c'est les ténèbres. C'est ce qui se passe dans les ténèbres. Et Jésus a été prêché pour que les païens passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu et qu'ils reçoivent par la foi en son nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et où se trouve cet héritage? Il se trouve dans la lumière, nous dit l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 11, je crois. Et justement, maintenant, le croyant est celui qui est chargé d'annoncer, dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 2, verset 9b, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Les apôtres ont été chargés d'annoncer les vertus de Christ, mais tout enfant de Dieu, tous ceux qui reçoivent et vivent dans la lumière, maintenant annoncent les vertus de Jésus-Christ. Et alors, nous retrouvons l'image de Dieu. Afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Cette image que Dieu a voulu, dès l'origine, faire paraître dans le monde, ayant créé l'homme à son image. Et parce que l'homme avait perdu cette vérité de la relation avec Dieu qui lui permet de vivre à son image, eh bien, Dieu l'a fait réapparaître en quelque sorte en Christ, parfaite et glorieuse. Et si l'Esprit nous donne de nous convertir au Seigneur, c'est pour contempler l'image de Dieu en Christ et être transformés nous-mêmes en la même image. Chapitre 3 toujours, de cette deuxième aux Corinthiens, mais verset 16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile qui recouvrait l'intelligence, le cœur, est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » En contemplant la gloire de Dieu sur la face de Christ, nous sommes nous-mêmes transformés dans l'image de celui que nous contemplons. Le ministère de l'Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui nous fait vivre avec lui. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Quand la lumière de la vie entre dans nos cœurs, alors nous vivons et nous restons et nous marchons dans la lumière. Le passage que je viens de vous citer dans Éphésiens au chapitre 5 est précédé par Donc à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Il est évident que cette réalité glorieuse se reçoit et se maintient par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Tout est définitif dans la foi, mais rien n'est automatique. Le monde spirituel n'est pas celui des machines qui reproduisent systématiquement la même action et le même résultat. L'histoire du monde, doublée par l'histoire d'Israël, nous dit qu'en dehors de l'attachement à Christ, les ténèbres sont toujours à l'œuvre. Systématiquement, lorsque nous nous détournons de la lumière de Christ, de celui qui nous reflète l'image de Dieu, eh bien, nous tombons dans les ténèbres. Et nous sommes prisonniers des ténèbres et nous faisons les œuvres des ténèbres. C'est ce qui s'est passé lors de la chute et puis c'est ce qui s'est passé aussi dans l'histoire d'Israël. Les ténèbres du paganisme sont toujours à l'œuvre, toujours, en permanence. Il faut la puissance de l'action du Saint-Esprit qui nous conduit à Christ, qui fait briller Christ dans nos cœurs, pour que ces ténèbres se dissipent et que la lumière véritable paraisse déjà. Et ces ténèbres du paganisme se manifestent grandement dans le temps présent. Alors ne vous laissez surtout pas happer par ces ténèbres. Ils sont à l'œuvre dans le monde actuellement. Recevez, continuez à recevoir les instructions de celui qui dispense la lumière de la vie. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a que ténèbres, que mauvaises œuvres. Ne vous laissez pas ravir votre héritage qui est dans la lumière. Il est écrit que Satan, pour nous séduire, se déguise en ange de lumière. Et il a aussi ses ministres sur la terre. C'est dans la seconde aux Corinthiens que nous voyons cela de la part de l'apôtre Paul, chapitre 11, versets 14 et 15. Alors, verset 13, disons, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, lorsqu'il y a cette séduction possible, et ces faux docteurs, ces faux ministres, ces faux apôtres, eh bien, nous pouvons déjouer toutes ces manœuvres de l'ennemi grâce, tout simplement, à la vraie lumière. Et je vous donne 5 points de repère. Premièrement, la vraie lumière nous demande de témoigner ouvertement. Si nous voulons rester avec Christ, la première chose que nous ayons à faire, c'est de témoigner de lui, de ne pas mettre notre lumière sous le boisseau. Hein, Matthieu chapitre 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le chrétien n'est pas chrétien en secret, il est chrétien ouvertement. Il manifeste autour de lui la lumière de Christ, il témoigne de Jésus-Christ. C'est clair. Deuxièmement, l'apôtre nous demande de revêtir les armes de la lumière dans Romains chapitre 13, mais on retrouve cela aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Romains 13 versets 11 à 14. L'apôtre nous enseigne de cette manière. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça, c'est un bon raisonnement. Les ténèbres s'étendent sur la terre, mais le salut est plus près. Alors si le salut est plus près, ce n'est pas le moment d'abandonner le combat, mais au contraire, c'est le moment de se revêtir. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et si nous allons donc, je ne vais pas le prendre, mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, c'est la même, sont les mêmes paroles qui nous demandent tout simplement de vivre honnêtement, vivre dans le jour, vivre dans la sobriété, donc nous dégager de tout ce qui est acte de folie, de concupiscence, de ces choses-là. Revêtir les armes de la lumière, c'est vivre honnêtement, comme en plein jour. Tout ce que nous faisons doit pouvoir être approuvé. Et même ce que nous faisons dans le secret ne devrait pas pouvoir être condamné. Donc, recouvrir les armes de la lumière. Et je reviens sur le passage que j'ai lu donc dans Éphésiens 5. Demandez ce fruit, de porter ce fruit de la lumière. Puisque le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, nous dit l'apôtre. Si nous portons ce bon fruit de la bonté, de la justice, de la vérité, eh bien, il est évident que nous n'allons pas désirer le fruit amer de la dispute, de la contradiction, de toutes ces mauvaises choses. En plus, nous portons le bon fruit, ou nous habituons au bon fruit, eh bien, nous restons dans les bonnes dispositions vis-à-vis de la lumière et elle peut continuer à alimenter comme cela nos cœurs et puis à faire de nous ceux qui partagent la bonté et la justice et la vérité du Seigneur autour d'eux. Il est évident que ceux qui sont habitués, hein, les viticulteurs là, qui sont habitués au bon vin, ne vont pas désirer boire de la piquette. Voilà, leur palais est exercé à ce qui est bon. Eh bien, devons-nous nous habituer à ce bon fruit de la lumière. Et si nous nous y habituons, bien sûr que nous saurons discerner assez vite les mauvaises saveurs que l'ennemi voudrait importer dans notre vie. Donc, témoignez ouvertement, marchez honnêtement dans la sobriété, portez ce fruit de bonté, de justice et de vérité. Et l'apôtre Jean nous dit, confessez nos péché. 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est cela aussi, vivre dans la lumière. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 2, versets 9 à 11, « Celui qui prétend être dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. L'amour du frère. Voilà, vous avez des repères pour déjouer toutes les manœuvres de l'ennemi. Témoigner ouvertement, marcher honnêtement, portez ce fruit de bonté, de justice et de vérité. Confessez vos péchés, aimez votre frère. Là, vous êtes revêtus et entourés et baignés de la lumière de Christ. Et alors, eh bien, pour qu'une autre lumière vienne et prédomine sur cette lumière, ce sera bien difficile, comme si une simple lampe de poche voulait éclairer lorsque le jour est à son apogée, lorsque le soleil brille parfaitement. Une lumière, une lampe de poche, si vous êtes dans la nuit, ça semble bien éclairer. Mais si vous êtes en plein jour, ça n'éclaire rien du tout. Et donc, vous saurez vivre vraiment dans la gloire de Dieu par ces choses qui nous sont données ici. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Aspirons à sa communion par l'Esprit de Christ et nous vivrons toujours dans la lumière. Le combat des ténèbres contre la lumière va bientôt cesser. Seule demeurera la lumière de Christ pour éclairer les nations. C'est bien sûr l'Apocalypse, chapitre 21. Verset 24. Alors, verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et puis un peu plus loin encore, chapitre 22, verset 5. Dans la ville de Dieu, la ville où est le trône de Dieu et de l'agneau, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Ne vous égarez pas dans le monde païen, je vous en conjure. Le monde païen, il faudrait dire beaucoup de choses à ce sujet, mais il y a quelque chose qui est très marquant dans le monde païen, partout, depuis l'origine et encore jusqu'à ce jour, c'est que, ayant abandonné la lumière de la vérité, la lumière du Seigneur, la lumière de Christ, le monde païen s'est tourné très vite vers les lumières de la création que sont le soleil, la lune, les étoiles, et les étoiles en particulier. L'être humain établit toutes sortes de correspondances entre lui et les étoiles. Et dans le monde païen, c'est comme ça que ça fonctionne. On se projette dans les étoiles, on projette les étoiles en soi. Enfin bref, on vit de ces fausses lumières. Alors, ce monde païen, ne vous laissez pas égarés dans ce monde païen, ne laissez pas vos enfants s'y égarer. Il a systématiquement été condamné après avoir été florissant. Toutes les civilisations païennes se sont écroulées et il y a eu à un moment donné dans l'histoire la grande confrontation entre le monde païen et le monde de la révélation. Et ce monde païen a été totalement défait lorsqu'il y a eu cette confrontation, puisque celui qui était le chef, un des chefs de ce monde païen à cette époque, le pharaon d'Égypte, s'est opposé à l'Éternel. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Eh bien, il a appris à ses dépens qui était l'Éternel, et sa civilisation a fini par s'écrouler, alors que Israël, qui était conduit par la main de Dieu, a non seulement été arraché du pays d'Égypte, mais a survécu et a passé les siècles, et malgré toutes ses fautes et son égarement, a été gardé, restauré et a permis au Seigneur de transmettre la lumière de sa connaissance à toutes les nations. Et maintenant, les nations sont éclairées par la lumière qui a brillé en Israël, à travers la loi, mais aussi, bien sûr, à travers Jésus-Christ, tandis que les nations païennes, les civilisations païennes ont été dissoutes, détruites. Toutes les civilisations païennes ont été détruites. Et voilà que ces civilisations reviennent avec leurs revendications et elles essaient réellement de se réintroduire et de réétablir un système qui est fondé sur l'idolâtrie, sur les puissances qui régissent l'univers, etc., etc. Tout cela finit toujours par le cataclysme. Tandis que l'Église a comme attente et comme espérance et comme assurance de voir la gloire éternelle de Dieu et d'être établie dans la gloire éternelle de Dieu. Alors, restez en Christ qui est votre lumière et votre vie. Ne vous laissez pas séduire par quelque enseignement que ce soit. Concernant les faux apôtres, les faux prophètes, eh bien, demandez le discernement au Seigneur. Mais concernant toutes ces réaffirmations du paganisme, eh bien, gardez-vous de cela. Et puis, sachez aussi les dénoncer lorsque vous y êtes confrontés. Que la bonté du Seigneur vous garde. Amen.